Les arbres s'en souviennent encore et je pense que vous l'aurez deviné, nous parlons cinéma ce soir, alors avec Danny Kouyaté, réalisateur burkinabé et auteur de nombreux courts-métrages et longs-métrages, hein, avec Bila Koro, co-réalisé avec Issa Traoré. Tobéré Kossam, vous m'excuserez la prononciation, je pense que, voilà. Les larmes sacrées du crocodile, et puis un film dont on a beaucoup parlé, Sia, le rêve du python en 2001. Et en 2003, vous avez tourné votre troisième long-métrage qui s'appelle Waga Saga. Et puis de l'autre côté, Christian Lambert, vous êtes directeur de production, et vous avez décidé lors d'un tournage en 2001, je crois au Bénin, de monter le cinéma numérique ambulant avec Laurence Vendroux. Et vous officiez dans plusieurs pays, le Mali, le Bénin, le Niger. Alors pour commencer cette émission ce soir, je laisse la parole à Antoine Doyen, jeune photographe indépendant, qui va nous lancer la question du débat.
Au pays où l'Afrique se rencontre.
Au départ, tout simplement, je voulais voyager, faire de la photo, et j'ai été amené à rencontrer quelqu'un qui était passionné de cinéma africain. Et l'idée du projet est venue avec lui, c'est-à-dire qu'en discutant, au fur et à mesure, j'avais envie d'en savoir plus. Et comme je ne connaissais absolument rien du continent africain, absolument rien du cinéma africain, bah, je me suis dit, je vais y aller par moi-même. J'ai commencé par me demander ce que pouvait être le cinéma africain. Donc j'ai découvert tous les grands noms, Danny Kouyaté, Abderrahmane Sissako, Souleymane Sissé, etc. C'est une liste très très brève, il y a beaucoup d'autres grands, parfois moins connus. J'ai fini par débarquer au Bénin en février 2005. Juste après, ça tombait bien, il y avait le FESPACO, Festival International de Cinéma Africain à Ouagadougou. C'est la grande messe du cinéma africain, et où tous ceux qui font le cinéma africain se retrouvent. Et moi, dans mon projet photo, je partais naïvement de l'idée que j'allais photographier des tournages, et que j'allais photographier des gens. Je voulais faire des portraits de cinéastes africains pour donner une sorte de réalité d'existence au cinéma africain auprès des gens qui ne le connaissent pas. Les films tournés en Afrique ou tournés par des Africains ont énormément de difficultés à être vus en Afrique. Il y a bien le FESPACO et compagnie qui s'en charge, il y a le CNA qui fait tourner les films dans les campagnes, mais à part ça, le nombre de villes africaines qui ont une salle de cinéma décente se compte sur les doigts de la main. Il n'y a quasiment rien. Et c'est une économie sinistrée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui produisent des films, souvent des fonds européens, il faut quand même être honnête, mais les gens qui les voient sont en Europe, sont dans les festivals, et sont un petit peu dans les campagnes grâce au CNA et à quelques autres initiatives similaires. Mais c'est une goutte d'eau, et tout reste à faire. Et c'est là que j'arrive à un moment clé de mon projet Regard d'Afrique, c'est que là je commençais à dire le cinéma existe, voici des portraits de réalisateurs africains. Mais là où j'arrive à un problème pour moi, c'est que je ne sais pas comment réussir à montrer le vide qui existe au niveau de la présentation des films en Afrique. Danny Kouyaté, je l'ai rencontré pour la première fois à la projection du film de Cheikh Fantamadi Camara. Moi, au tout départ, quand j'ai vu des films africains, ils avaient souvent des défauts. Les acteurs n'étaient pas très bons, la réalisation était un peu brinque-ballante. Et moi, ce qui m'a épaté chez Danny Kouyaté, c'était la maîtrise de l'outil. Parce que finalement, le côté film-cinéma s'effaçait derrière une histoire qu'on prenait vraiment plaisir à regarder avec des acteurs qui avaient vraiment de la gueule sur des sujets intéressants, des histoires motivantes. Enfin, c'était... Moi, ça m'a plu. Il fait partie des premiers réalisateurs que j'ai vus, en même temps que Fontana Crowe, en même temps qu'Abderrahmane Sissako. Et il est de ceux qui m'ont donné envie d'en voir plus. Le cinéma africain est un prétexte pour découvrir la société africaine. Et en ce qui me concerne, c'est très enrichissant. Et j'espère que je vais pouvoir le raconter dans les photos.
J'oublie pas mes racines. J'oublie pas mes racines.
Il n'a pas la langue dans sa poche, hein. Antoine Doyen, il établit bien là les bases des richesses et des problèmes du cinéma africain. Et d'ailleurs, on dit le cinéma africain, tout le monde dit le cinéma africain. Mais moi, j'ai envie de vous demander là tout de suite. Danny Kouyaté, est-ce qu'on peut dire un cinéma africain?
Oui, je pense que il y a parfois des polémiques sur des terminologies, mais en réalité, on peut dire un cinéma africain comme on peut dire un cinéma européen, mais pourquoi pas? Après, qu'est-ce qu'on met derrière les choses? C'est ça la question. Je pense qu'en Afrique comme en Europe, il y a plusieurs types de cinéma. Ça n'empêche pas que ce soit un cinéma européen parce que fait en Europe. Donc en Afrique aussi, il y a plusieurs types de cinéma, il y a plusieurs types de réalisateurs. il y a plusieurs types d'univers. C'est-à-dire que le réalisateur est un artiste avec une sensibilité, une âme, et il a envie de dire des choses. Et chaque réalisateur a sa propre identité d'artiste qu'il défend. Donc de ce point de vue-là, il y a forcément aussi beaucoup de types de cinéma dans le cinéma africain.
Christian Lambert, vous, votre regard?
Moi, je suis complètement d'accord avec Dany. Je crois que c'est pas la peine de trop se creuser la tête, de savoir si on doit dire un cinéma africain ou des cinémas africains. Je pense que il y a un cinéma africain comme il y a un cinéma européen, comme il y a un cinéma américain, et qu'il y a des choses vachement bien dans le cinéma américain, et très bien dans le cinéma européen, et formidable dans le cinéma africain. Et des choses différentes, c'est tout. Après, le reste, c'est pas très intéressant, je pense.
Et aujourd'hui, il en est où, ce fameux cinéma? Est-ce qu'on peut dire effectivement que c'est très très réduit parce que manque de moyens, comme d'habitude, manque de ressources, ou en même temps il y a quand même une extrême richesse? C'est très paradoxal au fond, Dany Kouyaté.
Non, c'est pas vraiment paradoxal dans la mesure où il est bien connu que le cinéma est un art et une industrie en même temps. Mais si on prend sur le plan artistique, on est plein de richesses. L'Afrique a tellement d'histoires à raconter encore que le cinéma peut aller chercher. Je vais dire, notre patrimoine n'a même pas été encore utilisé, n'a pas été abordé encore par le cinéma. Nous avons tellement de belles histoires à raconter que le cinéma peut prendre. Rien n'est fait encore à ce niveau-là. Et l'Afrique est couleur, l'Afrique est rythme, l'Afrique est musique, l'Afrique est danse, et tout ça est cinéma. Donc c'est évident que d'un point de vue artistique, il y a une richesse, c'est des mines inexploitées encore en Afrique. Mais là où le bas blesse, c'est quand on touche à l'industrie. Et donc on rentre dans la logique de la banane et du cacao.
C'est quoi cette logique?
Ben, c'est la logique du marché international, des cours des produits, etc., qui sont fixés. C'est-à-dire que nous, on cultive le coton, mais c'est les Américains qui décident le prix. Du brut. Donc ça, c'est d'autres histoires.
Vous, Christian Lambert, vous êtes parti tourner en Afrique. Vous l'avez ressenti comment quand vous étiez là-bas?
Moi, j'ai surtout senti que les endroits où j'avais voyagé en Afrique, les endroits où j'avais tourné en Afrique, les gens ne verraient pas le film. Ça, c'était clair, net, précis. Ils n'avaient pas les moyens. On était dans un village. Ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas d'argent pour manger. Ils n'avaient pas d'argent pour prendre le taxi. Ils n'avaient pas d'argent pour même si on les invitait à une projection. À la ville à côté, là où il y avait une salle, ils ne pouvaient pas y aller, c'était même pas dans leur culture, c'est quelque chose qu'ils ignoraient. C'est à partir de là que je me suis vraiment dit qu'on pourrait, avec relativement peu de moyens, monter un système qui permettrait de voir des images de relativement bonne qualité, de plus en plus de bonne qualité d'ailleurs, vu que la technique évolue, et que voilà, et que l'association, le CNA a été créée, et
Cinéma numérique ambulant.
Oui. Ouais. Et puis voilà, donc moi j'ai surtout senti que c'était important que les gens puissent voir des films, parce que si on veut qu'il y ait une industrie, il faut quand même créer un public, il faut quand même
créer une demande,
et que malgré tout, très très modestement, les équipes du CNA qui sillonnent, qui parcourent les villages, eh ben malgré tout, elles participent à la création, en tout cas à un effort de création du public. Et ça, pour moi, c'est une des choses dont je suis le plus fier.
Le Burkina Faso est un des pays qu'on dit justement porté par le cinéma, qui a eu une école, une très bonne école à laquelle vous avez été, et qui effectivement est très en avant. Et pourtant, il y a, je crois, un film par an maximum qui est fait là-bas, Dany Kouyaté.
Oui, c'est la moyenne à peu près. Hein.
Mais c'est pas beaucoup.
Non, c'est pas beaucoup, mais je pense que les problèmes sont les mêmes. C'est toujours les problèmes de production et de distribution et d'exploitation. Je pense que le diagnostic, il est clair. C'est que le cinéma a du mal à être une industrie chez nous. L'industrie du cinéma n'existe pas chez nous, en Afrique. Dans la mesure où nous faisons des films dans un cas d'économie absurde, si je puis dire. Et donc nous mettons beaucoup d'argent dans des films. Qui sont censés être des produits commerciaux, mais qui ne sont pas du tout commercialisés. Et donc, nous faisons des films à coût de subvention, en fin de compte. et l'industrie en tant que telle a du mal à s'installer parce que le système distribution et exploitation production eh ben il fonctionne pas comme il se doit. Ceci étant le problème du cinéma africain il est plus globalement dans le problème du cinéma dit d'auteur d'une façon générale parce que les problèmes que nous avons en Afrique, eh ben ils sont connus en Europe, ils sont connus même aux États-Unis. Il y a des films qu'on ne voit pas, il y a des films qui n'ont pas accès au marché. Et ici en France, il y a beaucoup de beaux films qui n'ont plus de place sur le marché parce que ils sont censés être des films d'auteur, ils sont pas des films grand public, etc. Et notre problème à nous, c'est qu'en bloc, nous sommes dans ce type de cinéma-là.
Ouais. Et le FESPACO, par exemple, un festival comme ça, le festival du film africain, qui est un festival quand même international, qui commence à avoir une renommée, hein, il faut le dire, c'est tous les 2 ans, et ça a lieu à Ouagadougou. Ça peut être aussi une impulsion, ça vous sentez que... ça aide, justement, parce que c'est un peu l'équivalent de Cannes, entre guillemets, pour donner une référence, toujours très occidentale.
Mais disons que s'il n'y avait pas le FESPACO, ça aurait été une catastrophe.
C'est vrai, à ce point-là?
Oui, parce qu'il n'y aurait rien eu, tout simplement. Parce que le FESPACO, c'est encore le tremplin où, à un moment donné, à un endroit précis, tous les films du continent se retrouvent avec un regard du monde entier. Moi, quand j'ai fait mon premier film en 1995, c'était Keïta, l'héritage du griot. J'avais derrière moi des journalistes du Japon, d'Australie, qui me poursuivaient pour me faire des interviews. Et pour moi, c'était absolument invraisemblable comme situation. Habituellement, je dis, je suis là, est-ce que vous me voyez? Mais là, il y avait le monde entier qui était derrière moi avec mon petit premier film. Et donc ça, ce sont des situations quand même assez incroyablement positives pour un jeune réalisateur comme moi. Et c'est le FESPACO qui permet ça. Bon, ceci étant, il y a aussi toutes les possibilités de rencontre que le FESPACO crée entre les cinéastes, entre les producteurs et les cinéastes, entre les comédiens et les cinéastes. Enfin, il se passe quand même énormément de choses. Mais quand même, tout ça, au bout du FESPACO, si je puis dire, on a l'impression que c'est reparti pour 2 ans et qu'entre-temps, il se passe rien, quoi. Et ça, c'est là où le bas blesse un peu.
Christian Lambert, vous étiez au FESPACO en février 2005, hein, cette année. Comment vous l'avez perçu?
Ah bah, pour nous, c'était...
Votre regard à vous?
Moi, c'était un petit peu spécial parce qu'on avait fait une opération, on avait fait venir les 4 structures qui tournent au Mali, au Niger et au Bénin, et on les avait tous réunis. C'était la première fois qu'ils se voyaient, c'était la première fois que les responsables des structures se rencontraient tout ensemble, c'est la première fois que les techniciens se rencontraient, et il y avait toutes les voitures, et on a fait les projections dans les quartiers de Ouaga. On avait été accueillis par la direction du FESPACO. Pour moi, c'était un moment complètement magique et extraordinaire. Mais sinon, c'est évident que le FESPACO c'est quelque chose d'extrêmement important et que ça participe justement au fait de pas laisser mourir quelque chose et de réinsuffler, de redonner du nerf à une économie qui en a besoin, à une industrie qui en a besoin. Et bon, à mon avis, il y a des solutions. À Ouaga, il y a Idrissa Ouedraogo qui théorise et qui travaille énormément sur le numérique, qui théorise beaucoup en disant il faut qu'on tourne en numérique, il faut qu'on trouve l'argent ici, il faut qu'on vende les places ici et ça va coûter moins cher, donc on va vendre moins cher. Donc c'est et il y a un vrai débat d'idées. Il y a une
Christian Lambert, le cinéma numérique ambulant, comment le public africain l'a accueilli? Comment ça s'est passé? Racontez-nous les projections.
Il n'y a pas 2 projections pareilles, mais la réalité, c'est que la première fois qu'on est parti faire des projections, c'était l'aventure familiale avec les enfants, un camion qu'on avait acheté et que c'était une espèce d'idée de barge frappadingue à moitié babacool. Et en fait, on s'est retrouvé, on pensait aller faire une dizaine de projections, on s'est retrouvé à en faire une quarantaine et on pensait faire des projections devant 200 personnes et on faisait des projections devant 500 ou 1000 personnes. Et quand on a dit ben, qu'on rentrait, ça a été un truc mais complètement incroyable, une espèce de pression. On vit des moments hyper forts en Afrique, il y a un rapport au temps, il y a un rapport avec les gens qu'on peut difficilement décrire avec des mots, mais que toute personne qui est allée en Afrique connaît. Et quand il y a vraiment des vieux du village, des jeunes, et qui disent « mais c'est pas possible que vous partiez, il faut revenir, il faut revenir, il faut revenir », et c'était quelque chose de... C'est quelque chose qui nous a littéralement boosté pour revenir et pour avoir l'énergie de remonter un projet, que ce projet soit accepté et tout ça. Mais c'est bien parce qu'il y a eu un accueil de ces projections complètement extraordinaire et que moi je pensais pas que ce serait aussi bien, je pensais pas que ce serait aussi fort, je pensais pas que ce serait aussi émouvant et je pensais pas que ça pourrait durer aussi longtemps. Et voilà, ça dure et régulièrement on a des équipes qui travaillent.
Que vous avez choisi aussi de former sur place des gens. Donc vous ne tentez pas d'arriver avec votre cinéma et de montrer et de repartir. Vous avez des unités, comme vous dites, dans plusieurs pays, et des gens que vous formez. Et d'ailleurs, je crois qu'on a au téléphone Rosalinda. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous allez bien?
Ah, Rosalie.
Oui, ça va très bien.
Christian est en studio, je crois que vous connaissez un petit peu. Rosalie, comment fonctionne votre unité CNA, Cinéma Numérique Ambulant?
Le cinéma numérique ambulant est installé à Ouida et à Nassengou, ici au Bénin, à Niamey et à Bamako, au Mali. Alors, chaque structure est composée d'une animatrice, d'un chauffeur et d'un technicien projectionniste. Nous projetons des films de sensibilisation sur les IST, VIH-SIDA, l'excision, le veuvage, le trafic des enfants, l'hygiène corporelle, l'infanticide, le mariage forcé, le mariage précoce, etc., etc.
Oui, nous avons
aussi des normes.
C'est très pédagogique.
Pardon?
C'est très pédagogique et il y a aussi une partie récréative, enfin un peu plus récréative, c'est ça?
Oui, voilà. Nous avons des films de distraction aussi, des films comiques pour animer les villageois. Et l'objectif du CNA est d'amener l'image du film africain où il n'existe pas du tout. Alors, le CNA amène les villageois à prendre conscience pour un changement de comportement par rapport aux mauvaises pratiques et les tabous qui minent aujourd'hui notre société. Et pour atteindre notre projet, pour atteindre notre objectif, nous sélectionnons chaque fois 10 villages locaux privés d'électricité, de loisirs, de toute information. Et ensuite, nous organisons des séances de rencontre avec les chefs villages afin de leur parler des activités du CNA avant de signer un contrat de 10 projections par village. Et comme ça, nous leur laissons le programme et ainsi tout le village est informé, tout le village sait, il connaît la date de la première projection.
Et comment le public réagit, Rosalie?
Pardon?
Comment le public vous accueille?
Et pour la première fois, c'est nous qui animons un peu, ils sortent un peu moins nombreux. Et pour la première fois, nous projetons des films pouvant établir un climat d'ouverture, de joie, de confiance et d'acceptation au niveau des villageois. Alors pour les autres fois, ils sortent très très nombreux, parfois en tapant les mains, en chantant derrière le véhicule du CNA et ça donne un air d'une grande fête. Voilà.
Ah, c'est formidable. Et vous êtes combien dans cette unité?
Chaque structure est composée d'une animatrice qui comprend bien les langues locaux de sa région où elle travaille, d'un technicien projectionniste et d'un chauffeur.
D'accord. Merci en tout cas, Rosalie, de votre témoignage. Et on voit qu'on peut vous faire confiance. Je pense que le cinéma numérique ambulant au Nord-Bénin a de beaux jours devant lui. Je crois que ce n'est pas Christian qui me contradira.
Non, non, bien sûr.
On te le dira.
Non, mais c'est formidable d'avoir rencontré une fille comme Rosalie, de pouvoir travailler avec elle et qu'elle soit autant investie dans cette histoire, dans cette aventure depuis plus de 2 ans maintenant. Quoi. Et ça continue et c'est grâce à des gens comme ça que cette histoire continue. C'est beaucoup plus maintenant grâce à eux que grâce à nous. Ça devient leur histoire, ça devient leur outil, c'est leur matériel, ils en prennent soin, c'est leur technique, ils savent mieux que nous faire fonctionner les appareils, ils savent mieux que nous comment aborder les chefs de village. Moi, je suis complètement ému de voir à quel point ça devient leur histoire, quoi. C'est formidable.
Vous en avez des étoiles dans les yeux. Dany Kouyaté, cette initiative, le cinéma numérique ambulant, est-ce que pour vous c'est peut-être justement un espoir de faire parvenir le cinéma dans des coins vraiment reculés?
Oui, complètement. Ce sont des initiatives qui sont extrêmement importantes pour plusieurs raisons. Je pense que d'abord, tout simplement, je crois que le cinéma arrive là à des endroits où il serait jamais arrivé, parce que le cinéma peut pas arriver avant l'électricité. Et que l'électricité, c'est parfois pas pour demain dans beaucoup de villages. Donc là, il y a une espèce de raccourci quand même pour montrer des films à des milliers de personnes. Et pour moi, en tant qu'auteur, en tant que réalisateur, je trouve que c'est salutaire. Parce que quand j'ai des retours de villages très lointains qui disent « on a vu ton film et il est fabuleux », j'ai envie de dire « mais comment vous avez fait ?» Comment vous avez fait pour voir mon film? Et parce que ça relève du parcours du combattant pour présenter un film dans un village où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'infrastructure, etc.
Oui, parce que vous avez aimablement prêté enfin une copie de Sia, Le rêve du piton, au cinéma numérique ambulant, je ne me trompe pas?
Oui, disons qu'ils ont pris une copie et qu'ils avaient raison de le faire. Et parce que autrement, de toute façon, cette copie serait laissée dans le tiroir.
Oui.
Ils ont eu tout à fait raison de prendre la copie. Pour moi, c'était le minimum que je pouvais faire, c'était de donner évidemment mon film. Et à la rigueur, si je pouvais payer un peu d'essence pour qu'ils aillent plus loin, je l'aurais fait en plus.
C'est nous qui devons essayer de payer un peu quelque chose pour.
Mais je pense que c'est des vases communicants quelque part.
Moi j'ai une grande idée sur ça, où je me dis le CNA réussit, les CNA réussissent à vivre, ces structures elles réussissent à vivre parce qu'elles signent des contrats avec les coopérations belges, les coopérations suisses, avec l'UNICEF, avec Plan International, avec tous les gens qui veulent faire de la sensibilisation, et ils réussissent à vivre. Donc je me dis depuis longtemps qu'il faut vraiment impérativement que toutes les sommes d'argent qui réussissent à réunir pour vivre, on prenne un pourcentage et que ce pourcentage retourne aux auteurs. Mais je ne sais pas comment le mettre en place, mais c'est extrêmement simple, ce n'est pas quelque chose qui mettrait en danger le CNA, au contraire, et en tout cas, il faut vraiment qu'on trouve un moyen de. Alors, nous, on travaille beaucoup avec l'Agence intergouvernementale de la francophonie qui a acheté les droits de diffusion des films en milieu rural. Donc le principal du fonds de films qu'on a, c'est ces films-là. Mais les films comme ceux de Dany qu'on a eu comme ça directement, il faut absolument qu'on trouve un moyen de les rétribuer. Absolument. En tout cas, c'est important qu'on le rétribue.
En tout cas, au début 2005, on sait que les 4 structures ont touché à 1,5 million de spectateurs. C'est pas rien.
Non, mais c'est énorme. On a énormément de public. C'est assez simple. Chaque structure, il y a 4 structures, ils vont 5 fois par semaine en brousse faire des projections. Et les projections sont en moyenne entre, je vais pas dire n'importe quoi, mais sincèrement, entre 300 et 3000 personnes. Donc, au bout du compte, quand on calcule, et tous les jours, elles notent, elles remplissent un rapport avec le nombre de spectateurs et tout ça, et quand on calcule, on arrive à des montants absolument incroyables. Hein. On touche énormément de monde.
Alors, en matière aussi de cinéma, il y a une éducation peut-être à faire, parce qu'on parle aussi beaucoup des gros blockbusters américains, du cinéma qui est assez violent aussi, qui est très populaire dans certains pays d'Afrique. Est-ce que c'est pas parce que finalement le public africain trouve les films africains un peu trop didactiques, Dany Kouyaté?
Oui, mais moi, je ne suis pas le public africain, donc je pourrais difficilement parler à la place du public africain. Mais ce que je pense personnellement, c'est que, de toute façon, le public n'a pas le choix. On lui impose un certain type de cinéma. Hein. C'est pour vous dire que parfois, moi, pour passer mon film chez moi, je suis obligé de passer par un distributeur en Europe. Donc, ce distributeur en Europe, il a peut-être son marché à faire avant de passer mon film. Donc, ça, c'est aussi des réalités qu'il faut savoir. Donc, le public africain, comme on le dit, c'est d'abord le public de la ville, puisque pour aller à la campagne, il faut se lever de bonne heure. Hein. Et donc, c'est ces jeunes de la ville qui regardent des films. Qu'est-ce qu'ils voient comme film? Eh bien, ce sont les sous-produits de l'Inde et d'Hollywood. Donc, et ce sont ces films-là qui sont vendus au rabais chez nous, et qui sont à la portée des jeunes de la ville. Mais nous, on ne produit ni en quantité, ni probablement en qualité suffisante pour pouvoir faire la concurrence à ces paquets de films qui nous arrivent au kilo. Vous savez que quand je vais pour discuter avec un exploitant de salle pour sortir mon dernier film au Agasaga, qui est tout neuf, qui est brillant, dont je suis très fier, qui n'est pas encore sorti, il me dit, mais attends, tu veux me prendre plus que Rambo? Et Rambo me coûte rien, et toi tu veux faire le difficile. Et moi, je suis sûr de faire mon chiffre d'affaires avec Rambo. C'est ça aussi les concurrences déloyales. Et que lui, il veut 60% sur mes recettes, contre 40%, parce que c'est ce qu'il fait avec Rambo. Sauf que moi, je suis pas Rambo.
Vous êtes plus fort que Rambo.
Ben, je le pense. Je le pense, d'autant plus que j'ai battu les records de Rambo avec mon film au Burkina. Donc, je ne doute pas de ça. Je pense qu'on lutte pas sur le même terrain. Donc,
c'est évident. Quand un film est bien sorti, quand un film africain est bien sorti en Afrique, ce film marche. Il n'y a pas de problème. Quand on va dans les villages, la chose qui nous plaît beaucoup, quand même, c'est que
On parle de cinéma ce soir, et on parle aussi d'éducation du public, puisqu'au fond, en plus, c'est vrai que le public africain avec les films, il a un rapport extrêmement proche aussi, hein, que ce soit dans la demande, dans le plaisir, il y a des exigences, et il faut aussi l'éduquer à apprécier le film, à ce que le film ne tombe pas tout cru, en fait, dans le creux de la main, Dany Kouyaté et Christian Lambert.
Moi, je crois que c'est extrêmement important de dire que c'est quelque chose qui n'est pas gratuit. Quand on va dans des endroits où moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'argent, c'est complètement absurde d'essayer d'établir un guichet, de faire payer les gens. Les lieux de projection sont complètement ouverts, mais on passe un contrat avec les responsables du village. Et on leur demande de remplir un cahier des charges. On leur explique que c'est pas gratuit, qu'il faut organiser le lieu de la projection, qu'il faut que quelqu'un aide à monter, à démonter, qu'il faut donner un repas aux gens qui viennent faire cette projection, et que à ce compte-là, et que on va pouvoir venir, et qu'on va pas venir une seule fois, on va venir 10 fois, et que c'est 10 fois qu'il va falloir faire cet effort, 10 fois qu'il va falloir qu'ils s'organisent, 10 fois qu'ils trouvent qui va faire la cuisine, qui va faire ci, qui va faire ça. Et parce que pour nous, tout le principe étant de dire que ce n'est pas gratuit. Bien sûr, on ne peut pas payer de l'argent, mais ce n'est pas gratuit.
Dany Kouyaté.
Oui, je pense que c'est fondamental, c'est très important, cette position. Et pour ma part, je pense que moi, je ne donne pas non plus gratuitement mon film, hein. Quoi qu'on pense. Parce que moi, quand je donne mon film... dans une initiative pareille, je vois derrière tout le travail que ces gens vont faire pour que mon film atteigne son public. C'est une injustice qu'on répare, si j'ai pu dire, d'une certaine façon. Parce que autrement, ce public, qui est mon public majoritaire, il n'aura jamais accès à mon cinéma. Et si un jour, moi, je veux avoir l'argent de ce public, et il faut bien qu'il commence à savoir que je fais des films.
Ouais, c'est certain qu'il se mord la queue, sinon.
Mais oui, c'est ça. Donc, il faut bien des gens qui vont vers ces gens, qui vont dire, écoutez, il y a un cinéma qui existe, qui s'appelle Cinéma Africain, c'est le vôtre, il parle de vous, mais vous ne le savez pas. Et voilà, des gens donc qui viennent me voir
pour me demander est-ce que je suis d'accord qu'ils prennent mon film pour aller faire ce travail. J'ai dit tout de suite oui. Et donc pour moi, c'est aussi des gens qui travaillent pour moi et c'est pas gratuit, je pense.
Ouais, mais c'est pas si évident que ça. Et encore une fois, merci beaucoup, Dani. Et dire qu'on répare une injustice, c'est un des plus beaux compliments qu'on nous ait fait. Merci.
Dani Kouyaté, vous dans votre cinéma, vous êtes influencé aussi par votre culture de griot, par votre univers. Vous le définiriez comment, vous, votre cinéma à vous? Puisqu'on a parlé du cinéma africain, des cinémas africains, mais alors le cinéma de Dani Kouyaté?
Oui, disons que moi je suis d'une famille de griots et pour moi, les griots sont... Ce qui m'intéresse chez le griot, c'est son côté fabuliste. Hein, il est toujours dans les fables et dans la métaphore. Et pour moi, le cinéma, c'est un outil de métaphore, c'est un outil de rêve. Et le griot fait rêver. Donc, le cinéma est un instrument fabuleux dans les mains d'un griot. Je suis persuadé que si mon grand-père maîtrisait le cinéma, il aurait fait des films absolument invraisemblables. Et chez moi, je suis le premier griot qui fait du cinéma. Et j'essayais de raconter des contes à travers mes films. Mais j'essaye aussi de perpétuer la mémoire des gens de chez moi. Et ça, c'était la fonction traditionnelle qui était celle des griots. Donc le cinéma, c'est un outil absolument fabuleux pour faire le travail d'un griot.
C'est une façon, en fait, de mettre en image des paroles qu'on vous a transmises.
Vous savez, chez nous, tout est mis en scène. La vie est une mise en scène, la parole est mise en scène. Donc déjà quand on fait du cinéma, on met en scène une mise en scène. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer comment c'est compliqué de filmer par exemple des palabres sous un arbre de façon respectueuse. Parce que si vous voulez respecter le filmage d'une séance de vieillards qui sont en train de parler, il faut savoir qu'on ne prend pas la parole n'importe comment, qu'on ne cause pas n'importe comment, qu'on prend son temps, qu'il y a un rythme, que n'importe qui ne dit pas n'importe quoi, n'importe quand, etc. Et si toi tu arrives avec ton découpage soi-disant technique pour dire « bon, toi maintenant tu vas te taire et toi tu vas parler », ben tu fous tout en l'air. Ça veut dire que parfois tu te retrouves avec des choses qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles doivent être. Et donc parfois il faut trouver des équilibres très complexes entre la fiction et la réalité.
Et les publics, alors, comment ils réagissent? Est-ce que vous, puisque vous connaissez un peu le public africain et le public français, est-ce que finalement on a quand même des codes en commun pour recevoir vos films?
Ben, disons que la question du public est très complexe en Afrique. Et comme vous aviez dit à un moment donné, parfois on nous reproche d'être trop intellectuel, on nous reproche d'être trop militant, on nous reproche d'être trop lent, on nous reproche d'être trop dans nos misères, on reproche tout aux cinéastes africains. Mais en même temps, on lui demande tout. Parce que nous, on nous demande d'être tout en même temps, d'être producteur, distributeur, exploitant, et scénariste, parfois acteur. Et moi, j'ai écrit mes deux premiers films. Pourquoi? Parce que j'avais pas de scénariste. Je suis pas un scénariste.
Vous êtes devenu un homme orchestre.
On est obligé parfois de l'être, même si certains le font par plaisir. Et ceci dit, c'est pas un plaisir de tout faire dans un film, parce que c'est extrêmement compliqué. Donc, sans compter que le cinéaste africain est avant tout un intellectuel. Et ça.
C'est-à-dire surtout accès à
l'écrit
aussi.
C'est-à-dire qu'il a été à l'école,
voilà,
et il a appris des choses. Il a surtout appris comment l'Afrique a été exploitée et continue d'être exploitée, etc., etc. Et puis il veut dire des choses avec son cinéma. Il veut revendiquer, il veut se battre, il veut dénoncer. Et donc son public n'attend pas toujours là où il est. Donc il y a pas mal de choses. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup évolué. Il faut se dire que le cinéma est né en Afrique dans un contexte politique très difficile de colonisation. Nos aînés, Sambène Ousmane et tous les autres, qui sont encore jeunes d'ailleurs, parce que Sambène continue à faire des films, mais ces gens-là, ils ont pris la caméra.
C'était un acte militant.
Mais ils étaient colonisés. Ces gens-là, quand ils parlaient leur langue, on les prenait pour des ânes. On leur mettait des crânes d'âne sur la tête quand ils causaient leur langue à l'école. Ils ont pris le cinéma pour dire non, ça ne va pas. Et nous, on est venu par derrière. et nous essayons de décrisper un peu tout ça. Mais c'est pas facile. Bon, il faut dire que de plus en plus, on essaye de faire du cinéma, et ça vient. Mais il a fallu quand même en décrisper un peu toutes ces choses-là, et que le cinéma reste encore un moyen de combat pour beaucoup de gens dans leur tête.
Christian Lambert, je m'adresse là aux spectateurs, Christian. Vous avez pu voir des films de Danny Kouyaté. Quel est votre regard?
Mon regard...
De spectateur français, par exemple.
Alors, c'est très long à répondre, mais moi je sais que j'ai un rapport complètement différent au cinéma africain depuis que je l'ai vu en Afrique. J'ai vu plein de films que j'aimais bien, que je trouvais, mais c'était genre Arte, quoi, ou RLC, auteur. Je me demandais pourquoi ce cinéma était pas populaire du tout. Et puis j'ai des souvenirs en brousse d'avoir vu des films que j'avais vus en France, et c'était la Révolution. Je redécouvrais le film complètement. C'était plus le même. C'était un autre film. C'était un film qui était vraiment complètement à sa place, et que d'un seul coup je découvrais et j'aimais profondément. J'ai pas dit que j'aimais pas avant, mais que là je j'aimais profondément. Donc la chose qui m'a le plus frappé, c'est que mon rapport au cinéma a complètement changé entre le moment où j'ai vu ce film dans la brousse et le moment où j'avais vu ce film dans des salles en France.
Ça s'est devenu plus concret. Qu'est-ce qui a changé?
Mon regard de spectateur, ça m'a éduqué, mon regard de spectateur. J'ai compris des choses que j'avais pas eu l'intelligence de comprendre la première fois que j'ai vu Tilaï en salle, qui est un film de Ouédraogo. J'avais pas compris ce film. Je trouvais que c'était un très joli film, c'est tout. Je suis sorti. La première fois que j'ai vu Tilaï en brousse, la deuxième fois que j'ai vu Tilaï en brousse, la troisième fois que j'ai vu Tilaï en brousse, la dixième fois que j'ai vu Tilaï en brousse, j'ai compris que c'était un chef-d'œuvre absolu. Et ça c'est mon regard de spectateur qui s'est aiguisé. Je suis un spectateur plus intelligent depuis que j'ai vu des films en brousse.
Danny Kouyaté, c'est un joli compliment ça pour les films africains, parce qu'effectivement on a tendance à les voir comme de jolis contes et pas à réellement comprendre des fois le message qu'il peut y avoir derrière. C'est quelque chose que vous entendez souvent?
Mais pas vraiment, je dirais. Mais moi, je pense que les films sur leur propre terrain sont toujours très vivants. Parce que chez nous, le cinéma, ça reste du spectacle vivant. Contrairement à l'appellation ailleurs. Quand on voit un film dans une salle, alors dans une salle vraiment populaire, et les gens s'approprient le film et les gens y causent avec les personnages dans l'écran. Et là, tout d'un coup, on a un rapport au spectacle qui est de l'ordre de la vie, quoi.
On apprend beaucoup. Oui. Et puis des fois, on sent aussi une opposition entre la tradition et la modernité. Est-ce que c'est un peu aussi l'image du cinéma finalement africain? On en est aujourd'hui, on tend vers une modernité et en même temps, on veut aussi garder ça, cette tradition.
Mais je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes auteurs qui sont résolument tournés vers l'avenir. Je pense que, sans renier nos valeurs, nous sommes résolument tournés vers l'avenir. Le numérique, aujourd'hui, on en parle pleinement en Afrique. Hein, et Christian parlait tout à l'heure, au Burkina, il y a tout un mouvement là-dessus. Et je pense que le plus difficile, c'est d'avancer tout en restant authentique.
Voilà, je crois que c'est un très beau mot pour la fin, en espérant beaucoup, beaucoup d'avancées pour le cinéma en général et africain en particulier. Merci à tous les deux.